Sejo Tamani, toutes les voix du Mali. Sejo Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Tamani, Tamani, Sejo Tamani.
Il est 8h, bienvenue dans cette édition du 13 octobre 2015, les titres. Deux des neuf évadés du camp 1 de la gendarmerie ont été arrêtés dans la région de Kaï. La traque se poursuit pour retrouver les autres fugitifs. Selon l'Association malienne des droits de l'homme, cette évasion est inquiétante pour la sécurité de la population. Par ailleurs, elle précise que sur la liste des neuf évadés, aucun d'entre eux n'est inculpé dans l'affaire des bérets rouges. La force Barkhane continue ses frappes aériennes contre les positions des djihadistes dans le nord du pays. Selon des sources locales, un bras droit, Diad Agali, aurait été tué lors de ses frappes ce samedi dans le massif de Tigargar. Le président Ibrahim Boubacar Keïta effectuera une visite d'État le 22 et 23 octobre prochain en France. Au cours de ce déplacement, IBK va rencontrer les plus hauts responsables français. Le chef de l'État co-présidera avec son homologue François Hollande le sommet de l'OCDE. À la présentation, Fatmata Togola. La traque pour retrouver les neuf évadés du camp 1 de la gendarmerie, dont certains sont des proches d'Amadou Ayasanogo, a déjà enregistré ses premiers succès. Deux des neuf fugitifs ont été arrêtés dans la région de Kaï, d'où ils envisageaient vraisemblablement de rejoindre le Sénégal ou la Mauritanie. Ils étaient en possession d'un des deux véhicules qui ont servi à la fuite du groupe des détenus. L'Association malienne des droits de l'homme précise que sur la liste des neuf évadés, aucun n'est inculpé dans l'affaire des bérets rouges. Toutefois, la MDH, qui exige une enquête approfondie, révèle que cette évasion est inquiétante pour la sécurité des populations. Amadou Boubacar Tekete est secrétaire général de l'AMDH, soutien des familles de bérets rouges disparus. Il est joint par Issa Fakaba Sissoko.
Cette évasion, normalement, doit être cause d'une enquête approfondie. Ceci dit, effectivement, nous avons 28 détenus dans le cadre de l'assassinat des bérets rouges où nous défendons les parents et les parents des victimes. Mais sur la liste de ceux qui ont évadé, il y a 9, aucun n'est sur la liste des 28 que nous défendons, pour le moment. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est qu'à ce niveau-là, au niveau du camp, il y a même des présumés djihadistes qui sont en détention. Et donc, c'est vraiment inquiétant quand on apprend l'évasion de certains détenus avec des armes, sachant pertinemment qu'il y a aussi des détenus à ce niveau où ils sont présumés des djihadistes, ça fait peur.
En tant que soutien aux familles des victimes, est-ce que vous constatez une lenteur dans cette procédure de jugement?
Absolument, absolument. C'est que vous savez, la lenteur judiciaire, hein, des fois c'est l'instruction même qui le veut, des fois c'est l'enquête qui l'exige. Donc nous sommes tenus de prendre notre mal en patience.
La force Barkhane a effectué samedi plusieurs frappes aériennes sur des positions des groupes islamistes dans le massif de Tigargar, dans le nord du pays. Selon de sources locales, un bras droit Diad Agali aurait été tué lors de ces frappes qui sont intervenues une semaine après l'exécution d'une douzaine d'informateurs de la force française dans la zone. Écoutons le témoignage d'une source locale sous couvert d'anonymat, joint au téléphone par Intala Akbilal.
Il y a eu des frappes avant-hier soir, c'était vers Boras et Abaïdara, semble-t-il. C'est dans ces frappes qu'un des bras droits de Yadou Kouali, qui était aussi un des commandants de la rébellion des années 90, a été abattu. Et il paraît qu'il était en compagnie de son fils de 10 ans. Il y a effectivement une semaine ou un peu plus, des jeunes gens qui ont été capturés par Akni, donc il semble-t-il que Akni les accuse d'avoir collaboré avec Barkhane, donc c'est pour cela qu'ils ont été capturés. Il paraît aussi que d'autres ont été exécutés. Donc les gens avancent un chiffre d'une trentaine de personnes capturées et d'une douzaine qui sont déjà exécutées.
Réagissez à toutes les informations sur la page Facebook et le compte Twitter du studio Tamani.
Tamani.
Le président IBK doit se rendre en visite officielle en France du 22 et 23 octobre. Au cours de ces deux jours, le chef de l'État va multiplier les rencontres avec les plus hauts responsables français et les gestes symboliques. C'est Kouga Diogo pour le compte-rendu.
IBK va être reçu dans le cadre d'une visite d'État. Une visite d'État est une visite officielle d'un chef d'État étranger à une autre nation. Elles sont souvent la plus haute forme de contact diplomatique entre deux pays et sont marquées généralement par des cérémonies. L'un des temps forts du déplacement du président malien sera le dîner d'État au palais de l'Élysée. Ce moment très protocolaire sera précédé par un entretien avec François Hollande. À l'agenda d'Ibrahim Boubacar Keïta, une rencontre avec Manuel Valls, le Premier ministre, un autre avec le président de l'Assemblée nationale et enfin du Sénat, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et même le président du MEDEF, le patron des patrons. Le programme du président prévoit également une conférence à la Sorbonne où il a été étudiant et une cérémonie aux Invalides où il recevra les honneurs militaires. Enfin, Ibeka doit se rendre à l'ossuaire de Domon pour s'incliner sur les reliques des disparus de Verdun, le champ de bataille où est mort son grand-père lors de la Première Guerre mondiale.
Au cours de cette visite, le président Ibrahim Boubacar Keïta présidera avec son homologue français le sommet de l'Organisation de coopération et développement économique qui réservera une place importante à la crise malienne à travers la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. La rentrée des classes dans quelques jours à Kidal, la date du 19 octobre, est maintenue pour le lancement des activités éducatives dans la région. L'information a été confirmée hier par un membre de la mission d'évaluation sur le terrain. Cette décision intervient après un accord signé entre le gouvernement et la CMA. La mission estime que de nouvelles perspectives sont engagées pour répondre aux besoins des populations dans d'autres domaines. Kouina Agamadoun est membre de la délégation. Il est joint par Barke Sissé.
Il a été convenu de lancer les activités éducatives le 19 octobre courant. En tout cas, la date est maintenue de deux côtés, comme un accord CMA gouvernement. Donc les populations sont très, très contentes de la relance de ces activités. Moi, mon sentiment personnel, c'est que l'état des infrastructures sur place, ce qui doit être, vu tout ce qui s'est passé sur le terrain ici, l'état des infrastructures, les infrastructures ont besoin d'être réhabilitées, les infrastructures ont besoin d'être occupées, les infrastructures ont besoin d'être reconstruites par endroits. La date sera retenue pour la cérémonie de lancement et la rentrée des classes va commencer immédiatement dans les locaux que nous avons avec les moyens qui sont sur place. Le reste suivra. Tout ne peut pas être corrigé avant le 19. Au bout de 5 jours, c'est pratiquement impossible. Mais les activités vont reprendre pour l'éducation et se poursuivre pour la santé avec les moyens de bord.
Un protocole d'entente et de cohésion a été signé ce week-end à Anéfis entre la communauté des Ifogas et celle des Imgats. Cet accord vise à renforcer les liens entre les deux communautés Touareg du Nord. Parmi les 6 points de ce protocole d'accord figure la cessation immédiate des hostilités. Ambala Ag Amzata est membre de la communauté des Imgats. Il est joint au téléphone par Alousseni Abatouré.
Soutenir ce genre d'initiative pour qu'il y ait la paix au nord du Mali. Ça va vraiment nous conduire vers une application rapide de l'accord sur le terrain. Ce que je voudrais vous dire, c'est que l'accord est au bénéfice des populations, c'est au bénéfice des Maliens. Mais s'il n'y a pas l'entente entre les Maliens et même les différentes populations au nord, ça veut dire que l'accord ne va pas profiter à ces populations. Donc aujourd'hui, ce qui se passe doit attirer l'attention du gouvernement du Mali, de la communauté internationale et toutes ces parties doivent accompagner ces processus pour qu'on fasse la paix et qu'on rentre rapidement dans l'application de l'accord. Pour que les enfants qui ne vont pas à l'école aujourd'hui reprennent le chemin de l'école, pour que les populations qui souffrent aujourd'hui par le manque des structures de santé, il y ait l'ouverture de ces structures de santé au niveau de toutes les régions du Nord et en particulier la région de l'Est.
26 unités industrielles sont de nos jours connectées à la station d'épuration des eaux usées de Bamako. Parmi ces usines, seules 13 sont équipées d'unités de pré-traitement qui permettent de réduire les charges polluantes de leurs eaux résiduaires. Une difficulté majeure pour la station qui reçoit plus de 3000 mètres cubes d'eau usée par jour. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement qui a effectué une visite guidée sur le site a annoncé que des mesures vont être prises pour faire face à ces difficultés. Ousmane Kone est au micro de ce
J'ai pu prendre toute la mesure de l'utilité de la station parce que à Bamako, quand on parle d'assainissement, les gens se préoccupent plutôt des ordures ménagères, des ordures solides, alors que les déchets liquides peuvent constituer un danger beaucoup plus important. Cette station a un rôle très important dans l'assainissement de Bamako.
Certaines industries devaient faire un traitement préalable avant que les eaux usées ne soient envoyées. Aujourd'hui, on dit que ce traitement n'est pas fait par beaucoup d'industries. Alors, quelles sont les dispositions qui vont être prises?
C'est une difficulté qui a été signalée. Nous allons mener la réflexion avec les techniciens pour voir comment prendre en main cette question. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que c'est une mission qui ne relève pas d'un seul acteur. Chacun doit faire son rôle en matière d'assainissement. Il y a ceux qui ont la responsabilité de traiter les déchets, mais il y a la responsabilité de ceux qui produisent les déchets.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
À présent, les échos de nos régions. Lancement ce mardi à Djenné de la formation de 21 jeunes bénéficiaires du projet de développement des compétences et emplois des jeunes. Organisé par le Conseil local des jeunes, elle est assurée par l'Agence pour la promotion et l'emploi des jeunes. À l'issue de 2 semaines de formation, 12 jeunes seront retenus pour un financement de projet. Le cercle de Koutiala a enregistré 384 cas de tuberculose en 2014 contre 306 cas à ce jour pour l'année 2015. Elles ont aussi informé la population sur les moyens de lutter contre la maladie. Ces informations ont été communiquées ce dimanche par les autorités sanitaires de la localité au cours d'une rencontre organisée par le CSRF de Koutiala et financée par l'ONG Gamina. Une caravane de sensibilisation a marqué le début d'une campagne sur le mariage précoce hier à Ségou. Les activités qui seront menées comportent des rencontres avec les leaders religieux et la diffusion des messages à la radio sur le sujet. Cette campagne est une initiative du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille avec le soutien de l'UNICEF. Elle concerne les cercles de Bla et Sang. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le magazine.